Mon thème ce matin, ne te laisse pas arrêter quand Dieu est silencieux. Ne te laisse pas arrêter, même lorsque Dieu est silencieux. On a tous vécu, en tant que chrétiens, qui prions, qui nous attendons au Seigneur des exaucements de prières fabuleux, des moments extraordinaires, des moments encourageants, et en même temps, dans nos propres familles, on était sur un terrain de bataille, sur un terrain de bagarre spirituelle. On avait l'impression que ça marchait ailleurs, la prière, et que chez nous, il y avait comme un ciel fermé, une prière non exaucée, une souffrance qui persiste. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela. Nous allons voir quelque chose dans la parole qui nous en parle. Le sujet de ce matin, ne te laisse pas arrêter, même lorsque Dieu semble silencieux, intéressera toute personne qui s'est déjà posé cette question en disant « J'ai l'impression que ce n'est plus comme avant, j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas, j'ai l'impression que le ciel est fermé alors que je prie de toutes mes forces. Pourquoi je ne ressens plus cette présence que je ressentais auparavant ?» Nous savons tous que Dieu entend la prière. Mais il y a des temps où il nous semble que c'est silencieux et que les promesses ne sont pas en train de s'accomplir. On est comme sur notre ordinateur à un moment donné, et puis c'est marqué « Le programme ne répond plus ». Et puis, il faut attendre, il faut faire des choses. Il existe de multiples formes de prière. Mais la prière dont j'aimerais vous parler ce matin, l'expérience de cette personne dont j'aimerais vous parler ce matin, va nous monter d'un niveau, d'un cran d'exigence. Car le combat est tel qu'on sera emmené plus loin. Parce que Dieu nous y entraînera. Parce que Dieu nous y entraînera. Car je crois que de grands exaucements se trouvent au bout de prières accompagnées de luttes intenses, de prières, d'agonie. Car le chemin de la prière, de combat, n'est jamais un chemin facile. Et sur ce chemin, Dieu cherche quelque chose au fond de nous. Et c'est là que j'aimerais vous amener. Car lorsque Jésus va clore cette parabole de cette veuve qui va être persévérante, il va dire « Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Trouvera-t-il la foi ?» Je vous invite à ouvrir avec moi dans Matthieu chapitre 15, et nous allons lire à partir du verset 21. Matthieu 15, 21. « Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Et nous lisons encore dans Marc chapitre 7 et le verset 24. Marc 7, 24. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison, il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Quand Jésus est quelque part, il ne peut pas rester caché. Quand la présence de Jésus est là, quand la puissance de Jésus est là, lorsqu'il est là même incognito, lorsqu'il est là ne voulant que personne ne le sache, sa gloire et sa puissance sont telles qu'il ne peut rester caché. Lorsque Jésus a de la place dans votre vie, ça se saura tôt ou tard. Mais si, après 20 ans, jamais personne ne s'est posé la question « Pourquoi est-ce que tu es chrétien ?» Jamais personne ne vous a posé quelque question que ce soit. Vous devez vous poser la question « Quel Jésus est-ce qu'il y a dans ma vie ? Quel Jésus habite dans ma maison ? Quel Jésus est dans mon cœur, dans ma vie ?» Car Jésus, lorsqu'il est là, il ne peut pas rester caché. Jésus va quitter cette région du pays d'Israël, des environs du lac de Galilée, pour s'en aller à l'extérieur de son pays. Il va à l'étranger, dans le territoire de Tyr. Et le texte nous dit dans Matthieu 15, lorsque vous le regardez après, que Jésus va quitter ces lieux, il va revenir vers les rives de la mer de Galilée. Ça veut dire qu'il a fait tout ce trajet qui est un peu plus que 100 kilomètres. Il aura fait tout ce trajet pour vivre, pour permettre une expérience, pour exaucer une prière d'une seule personne. Ne pensez-vous pas que Jésus a une intention spéciale pour cette personne-là? Jésus a une intention spéciale pour chacun de nous. Il se déplace du ciel sur la terre pour venir vers nous, pour nous apporter, pour nous donner de vivre une expérience, pour nous faire grandir dans notre foi. Oui, il ne peut rester caché, il a une intention. Et cette femme sent que ce Jésus qui est là, qu'elle ne connaît que partiellement, il y a une opportunité à saisir. Il y a quelque chose qui est là maintenant, une opportunité maintenant, qu'il ne faut pas laisser passer. Mes amis, j'aimerais que nous venions de telle manière au culte, que vous puissiez dire, Seigneur, il y a une opportunité à saisir, il y a un temps de grâce. Et vous savez, on dit toujours, le temps passe de plus en plus vite, et un culte suit un autre culte, et nos réunions se succèdent. Mais si nous pouvions dire, il y a une opportunité, Jésus est là, et je désire vivre quelque chose avec lui. Si vous désirez du plus profond de vous-même, comme cette femme va le désirer, vous allez vivre quelque chose. Vous allez recevoir quelque chose. Et le Seigneur va nous enseigner, au travers de l'attitude de cette femme, il y a ce rendez-vous divin. Elle est consciente qu'il y a un rendez-vous là. Elle sent des choses. Elle réalise dans l'esprit des choses qu'il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose qui est vraiment une opportunité divine, un rendez-vous de Dieu. Tout comme Jésus qui va s'arrêter près du puits de Sichar, qui en plein midi va se mettre dans ce puits en Samarie, et il y avait cette parole qui nous dit « il fallait qu'il passe par là » parce qu'il y avait un rendez-vous avec cette femme, la Samaritaine. Ou encore Zachée qui est sur son arbre, il nous est dit dans la parole que Jésus devait passer par là car il y avait un rendez-vous avec Zachée. Il y avait une opportunité à saisir. Et j'aimerais dire ce matin, Jésus doit passer par Genève. Jésus doit passer par notre vie. Nous devons saisir ce matin l'opportunité et pas laisser passer les choses. Car il nous est dit dans Hébreux 6, verset 12, ce texte très connu, c'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses. Le Fils de l'homme, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais c'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses. La foi instantanée est bonne, mais si nous sortons de ce culte et que nous n'avons plus, nous ressentons plus ce que nous avons senti ici, ça ne va pas, nous devons persévérer et aller encore plus loin. Parce que c'est par la foi et la persévérance que nous hériterons, que nous recevrons et que nous allons vivre des victoires. Cette femme avait une très grosse souffrance. Qui peut comprendre cette maman? Qui peut comprendre cette maman qui doit vivre à la maison? Des expériences que l'on ne peut pas expliquer d'un moment à l'autre, d'une manière imprévue et de manière fortuite comme cela. Sa fille est agitée par des symptômes étranges qu'on pourrait appeler des maladies psychiques aujourd'hui peut-être, très violentes, mais qui a réalisé à un moment donné ce problème-là, c'est pas un problème normal, c'est un problème d'ordre spirituel. Il y a quelque chose qui se passe dans ma maison. Combien elle a dû se sentir seule, parce qu'à qui expliquer ça? Qui va me comprendre? Quel médicament va solutionner, va-t-on pouvoir donner à ma fille? Imaginez cette souffrance de subir à tout bout de champ ces attaques démoniaques, le jour, la nuit. À qui est-ce que je peux me confier? À qui est-ce que je peux parler? Imaginez cette solitude au fond de son cœur, de ce qui se passe dans sa maison. Elle avait une vie publique peut-être, mais dans sa maison elle était toute seule, à confronter coup sur coup l'imprévu avec sa fille qui peut-être cassait tout, qui démontait tout. Cela me fait penser juste à la page d'à côté, au chapitre 17, dans Matthieu. Ce père qui se jette à genoux, aux genoux de Jésus, et qui se jette à ses pieds en disant « Seigneur, aie pitié de moi, mon fils à la maison !» se jette dans le feu, il se jette dans l'eau, il veut se suicider à tout bout de champ. Quel drame dans ma propre famille! Mon enfant veut se suicider, je suis paniqué, je ne dors plus la nuit, je dois le surveiller partout. Ce démon le prend à tout bout de champ et ce tourmenteur. Mes amis, Jésus, il entend ça, il se tait. Combien il a dû réagir et frémir dans son esprit lorsqu'il entend les dégâts du démon, lorsqu'on lui parle de la destruction massive de ce monde spirituel ténébreux qui touche les familles, qui touche les enfants. C'est horrible. Le diable n'est là que pour voler, égorger et détruire. Et Jésus, jusqu'à présent, se contient. Lorsque ce père va dire, « Mais je me suis approché de tes disciples et n'ont pu le délivrer », Jésus va réagir instantanément et il va dire, « Race d'incrédules, jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Ce genre de démon ne sort que par la foi et par la prière. Et puis certains textes ajoutent avec le jeûne. Voir le tourmenteur à l'œuvre devrait nous mettre en colère. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas là pour dire, voilà, y a rien, on peut rien faire. Doit nous faire réagir. Je me souviens, il y a longtemps de cela, nous étions dans une cellule de prière d'une maison. Je vais être très vague dans ce que je dis parce que ça ne se passe pas à Genève, mais tout de même, je ne voudrais pas dévoiler quelque chose. Mais un couple de deux personnes de deux pays différents. Et pendant que nous avions la cellule de prière, nous allions quand même assez régulièrement, eh bien, il y a eu des cris dans la chambre d'à côté. C'était deux enfants, donc l'une, la petite fille, quel âge elle pouvait avoir, peut-être 7-8 ans. Et elle dit, voilà que ça recommence. Sa maman dit, on arrête tout, je veux que vous voyez cela. Et toute la cellule est partie dans la chambre de cette petite. Et on a vu cet enfant dormir et se tortiller dans tous les sens, grimacer et se tourner et pousser des cris. Et elle dit, voilà, ça se passe régulièrement et on ne sait pas comment arrêter ça. Instinctivement, nous nous sommes donné la main autour de cet enfant, on a prié et puis l'enfant s'est calmé. Bien sûr, il y avait une situation là derrière qu'on a dû débusquer et qui était due à cause d'antécédents, d'héritages familiaux qui faisaient qu'il y avait des liens spirituels sur cet enfant. Mais je peux vous dire que c'était juste horrible. Ce souvenir que ça m'a laissé et de voir que des parents vivaient cela sur une base régulière. Sa fille était donc tourmentée cruellement. Une situation d'extrémité. Et les situations d'extrémité doivent être traitées avec des moyens puissants. Et ce moyen puissant dans lequel Jésus va conduire cette femme, c'est la foi. Jésus va la conduire dans une dimension de foi supérieure. Et c'est ça que j'aimerais partager ce matin avec vous. Une foi supérieure qui va finalement émerger dans une foi qui va étonner même Jésus. C'est très rare que Jésus soit étonné de la foi, et ici il le sera. Mais le chemin pour accéder, pour arriver à cette foi supérieure, est un chemin parsemé de tests. Nous aimerions tous avoir la foi, nous aimerions tous qu'on nous impose les mains, qu'on ait la foi, qu'on nous fasse une onction d'huile, qu'on ait la foi, qu'on prie pour nous, qu'on ait la foi, qu'on aille visiter un séminaire sur les 10 clés pour avoir une foi grandissante. Nous aimerions tous avoir la foi de cette manière-là. Alors je ne dis pas que c'est mauvais, et je ne me moque de rien ce matin, mais la foi passe par un chemin étroit, parsemé de tests, afin que ce chemin soit pour nous le chemin d'une expérience que nous n'oublierons plus jamais. Elle va être conduite, dirigée au bout d'elle-même. Il y a des situations, mes frères et sœurs, qui nous demandent d'aller encore plus loin, qu'on prie encore plus intensément, qu'on s'engage encore plus et sans relâche, qu'on donne le maximum, et que tout le reste soit mis en attente, tout le reste soit mis hors de nos priorités, que cela devienne une priorité. Et combien je suis remis en question, combien je suis interpellé moi-même au travers de cette démarche d'un engagement total et d'une prière forte, puissante, engagée de cette femme, je me dis à chaque visite que je fais à l'hôpital, à chaque visite près de personnes qui sont à l'extrémité, j'aimerais que Jésus m'amène dans cette même dimension-là, cette dimension de foi. Jésus, il faut que tu sois là. Et lorsque tu es là, tu ne peux pas rester inconnu. Tu vas te révéler, ta gloire, ta puissance va se manifester d'une manière ou d'une autre. J'aimerais cela. Et avez-vous remarqué que cette femme qui habite non pas en Israël, mais dans un territoire complètement païen, Tyr et Sidon sont connus comme des villes ayant d'autres divinités horribles, elle va pourtant dire « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Elle va reconnaître la messianité de Jésus. Elle reconnaît Jésus pour qui il est. Mes amis, c'est là la bonne base, c'est là le bon début, c'est de savoir à qui je m'adresse. C'est d'avoir Jésus, de savoir quelle est sa position, quel est son nom, quelle est sa force, qui il est vraiment. Il est celui qui est au-dessus de toutes choses. Fils de David, elle a reconnu cette messianité. Et avez-vous remarqué que chaque fois que la messianité de Jésus se dégage, se libère, est dite quelque part, est prononcée, il y a une agitation. On veut faire taire les aveugles qui disent « Fils de David », on les fait taire. Ici, les disciples, lorsqu'ils entendent cela, eh bien, ils veulent faire taire cette femme. C'est eux qui auraient dû dire « Mais c'est vrai ce que tu dis, il est vraiment le Messie ». On peut l'applaudir, il est le Messie. Au lieu de cela, ils font l'inverse. Mais vous imaginez, Jésus, il est là, il se tait. Il sent dans son esprit que le démon fait des dégâts là à côté. Et lui, il peut le faire taire. Mais il se contient. De l'autre côté, Jésus est avec ses disciples qui, eux aussi, doivent être enseignés, doivent apprendre quelque chose. Et ils font tout le contraire. Ils sont avec lui, ils voient ses miracles et tout. Et lorsque la messianité de Jésus est déclaré par cette femme, ils mettent la femme dehors. Au lieu d'approuver ce qu'elle est en train de prier, au lieu de dire « Amen » à ce qu'elle est en train de prier, au lieu de dire « C'est bien, c'est exactement ça ». Jésus est le Messie, nous en avons les preuves. Nous avons vérifié que les prophéties messianiques sont en train de s'accomplir. C'est bien lui, le Fils de Dieu, le Fils de David, le Messie qui devait venir. Sa prière est juste. Imaginez, regardez sa solitude, regardez la solitude de cette femme, sa souffrance, elle est seule à sa maison, elle est devant Jésus, elle se sent tellement seule parce que Jésus ne dit pas un seul mot. Elle se sent seule dans la communauté parce que les disciples la mettent à l'écart. Imaginez la solitude. Je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà senti seul de cette manière-là. Mais Jésus est présent. Quand Jésus est présent, même s'il ne dit rien, il va se passer quelque chose. Lorsque Jésus est présent, lorsqu'il est présent, tu peux attendre, tu vas attendre, mais il va tôt ou tard se passer quelque chose va bouger, il va t'exaucer, je peux encore m'attendre à quelque chose. Les ténèbres sont dérangées, mais Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Comment comprendre ce silence de Jésus ? Jésus lui rend encore le chemin plus difficile. Frères et sœurs, vous avez une urgence. Vous faites une bonne prière. Vous faites tout juste. Et pourtant, Jésus se tait. Pas de réponse. Ce silence de Dieu, écoutez bien, ce silence de Dieu est une provocation pour nous pousser plus loin. Ce silence de Jésus, au lieu d'être un découragement, parce qu'elle aurait pu dire, mais Jésus, voilà, je suis à la bonne adresse, je fais une bonne prière, et puis... je suis déçu, tant pis, et je rentre. Au lieu d'être déçu, parce que c'est ça que le diable cherche, au lieu d'abandonner, parce que c'est ça qu'il veut, pour continuer à suivre et poursuivre son travail de destruction à la maison, au lieu de cela, au fond d'elle-même, l'Esprit Saint réagit. Reste, continue, accroche-toi. Frères et sœurs, écoutez le Saint-Esprit en vous. Il ne vous dira jamais, abandonne, laisse tomber, rentre chez toi. Il vous dira, accroche-toi, continue, prie encore. C'est ça qu'il va dire. Cette sainte détermination, frères et sœurs, je voudrais la réveiller en vous ce matin. Il nous faut être des chrétiens déterminés. Il nous faut des chrétiens qui sont déterminés, qui savent vraiment pourquoi ils prient. Parce que souvent, nous prions, mais quand ça ne marche pas, nous passons à autre chose. Parce que finalement, exaucer ou pas exaucer, ça ne change quand même pas tant que ça. On peut toujours se rabattre sur d'autres solutions. Mais ici, il n'y a pas d'autre solution à avoir. C'est tout, c'est rien. Si Jésus n'intervient pas, ma fille, elle va mourir tôt ou tard. Si Jésus n'intervient pas, je n'ai plus de solution, mon espoir, il est mort. Même un Jésus qui se tait, il va encore y avoir quelque chose qui va se passer. Je vais passer les obstacles, les uns après les autres. Je vais m'accrocher. Et ma foi va vers un chemin solitaire, un chemin étroit, solitaire. Mais je vais m'accrocher encore. Je ne comprends pas, mais je m'accroche. Je ne sais pas pourquoi il n'y a rien qui se passe, mais je continue quand même. Ça, c'est, mes amis, un chemin que nous voulons tous éviter. On préfère avoir la foi par une imposition des mains, par un séminaire d'un grand pasteur, etc. Mais le chemin du Seigneur et son école pour nous est indispensable. Ne faisons pas l'école buissonnière. N'essayons pas d'éviter cela en nous rabattant sur des chemins, des techniques faciles. Il y a ici quelque chose qu'il nous faut saisir ce matin. Même si tu ne sens plus, tu ne comprends pas, les oppositions sont nombreuses, tu n'as pas d'exaucement, accroche-toi. Jésus va dire quelque chose. Jésus comprend sa peine, bien sûr. Il entend son cri depuis longtemps déjà, il savait, il entendait cette souffrance. Il recueille sa peine, il recueille sa prière. Il est fier de cette femme qui a dit « Jésus, Seigneur, fils de David ». Il ne méprise pas sa douleur. Et il va dire « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Matthieu 10, 5, Jésus, après avoir choisi les 12, leur donnera recommandation « N'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël ». Acte 3, 26, c'est à vous, premièrement, donc aux Juifs, que Dieu a suscité son serviteur, l'ayant envoyé pour vous bénir, etc. Il y a beaucoup de textes qui nous parlent que c'est les Juifs d'abord. Jésus l'affirme. Il est venu pour Israël et il ne s'est jamais repenti de son appel. C'est pourquoi nous aimons Israël. C'est pourquoi nous prions nous aussi pour Israël. Nous prions pour son salut. Nous prions pour les brebis perdues en Israël. Car c'est la priorité de Jésus, donc c'est notre priorité aussi. Cette parole de Jésus, écoutez bien, cette parole de Jésus, Jésus s'est tu. Les disciples ne l'ont pas accueilli. Elle est toujours là. Jésus va dire, je ne suis pas venu vers vous, je suis venu vers mon peuple d'Israël. Et toi, tu ne fais pas partie d'Israël. Elle aurait eu toutes les raisons pour s'arrêter, n'est-ce pas? Toutes les raisons. Elle aurait pu se sentir vraiment rejetée. Je n'ai pas de chance. Je ne fais pas partie du peuple d'Israël. Elle va dire, si vous voulez souligner une parole dans ce texte, moi j'aime bien demander que les gens encadrent ou soulignent quelque chose. Si vous voulez souligner une chose, soulignez le verset 27, où il est dit « Oui, Seigneur ». Est-ce qu'on veut le dire ensemble ce matin ?« Oui, Seigneur ». Vous ne l'avez pas dit d'une manière machinale parce que je vous demande de participer à ce culte, mais cette parole est tout simplement extraordinaire parce qu'elle va dire « Je suis d'accord avec toi. Je supporte ton silence. Seigneur, je ne suis pas non plus susceptible et frustré parce que je n'ai pas été salué correctement par tes disciples. Ils n'étaient pas super ce matin, ils ont peut-être mal dormi, ils en avaient marre de marcher, ils n'étaient pas à l'aise dans mon pays, à Tyr, à Sidon, ils préféraient rentrer chez... Ils ne sont pas contents de leurs vacances, ils sont énervés. Je leur pardonne, Seigneur. Maintenant, Seigneur, tu dis, je suis venu pour Israël. Et moi, je réponds, d'accord, Seigneur. Wow. Je ne suis pas le premier, je ne mérite pas tes grâces. Et je dis, Seigneur, tu as raison. Seigneur, je ne mérite rien. Seigneur, tu as le droit de passer outre pour aller plus loin. Seigneur, je t'ai fait connaître ma prière. Tu n'es pas obligé de m'exaucer. D'accord, Seigneur. Oui, Seigneur. Elle va s'accrocher. Mais elle va aussi dire oui. Je suis d'accord. Je me soumets. Je suis brisé, Seigneur. Je suis par terre. D'ailleurs, il est dit au verset 25 que, au lieu de crier par derrière, on va la retrouver maintenant devant Jésus. Et elle est prosternée par terre. Elle est par terre. Elle dit « Seigneur, secours-moi, secours-moi. » Elle n'a plus de prière, elle n'a plus de parole. Elle ne sait plus que dire. Elle vient juste s'approcher du Seigneur et dire « Seigneur, au secours. » Mes amis, si tu n'as plus de réponse, si tu ne comprends pas, tu peux encore t'approcher du Seigneur ce matin. Tu peux encore te prosterner. « Seigneur, je ne comprends plus rien, mais je me prosterne devant toi ce matin. » Seigneur, je reconnais ta messianité, même si tu te tais, même si tu passes outre, je ne t'en veux pas, Seigneur. Parce que je ne suis pas le premier sur la liste, pas du tout. Il y en a d'autres qui sont avant moi, et je reconnais que je ne suis pas une priorité. Mais Jésus est en train de la mettre à son école, il est en train de la faire grandir, il est en train de la faire grandir dans sa foi. Jésus est en train d'être son maître, son professeur, qui, à son université, est en train de faire grandir la foi de cette femme par ce chemin étroit où elle va vivre des choses, où elle va expérimenter des choses incroyables. C'est un chemin et une université de solitude. Seigneur, oui, les brebis perdues d'Israël ont des besoins, de grands besoins. Elles sont prioritaires, c'est dans l'ordre des choses. D'autres passent avant moi, mais moi aussi je souffre, Seigneur. Oui, tu es le Fils de Dieu, je suis aussi une âme en souffrance, Seigneur. Et elle va réaliser que cette provocation du silence de Jésus, cette parole où Jésus met Israël avant le tir, cette deuxième provocation lui montre l'enjeu, frères et sœurs. Il y a un tel enjeu dans sa maison, il y a un tel combat spirituel que ce n'est pas encore le moment de régler le problème, ce n'est pas encore le moment d'intervenir. Parfois, le combat est tellement intense que les résistances sont en train de se confronter. Le combat entre les ténèbres et la lumière est en train de se faire. Et nous ne savons pas de ce qui se passe, nous ne comprenons plus rien, nous ne savons pas pourquoi tout est bloqué. Mais il y a un combat spirituel très intense qui va bientôt se dénouer dans la mesure où tu seras comme cette femme, soumis au Seigneur. Où tu diras, oui Seigneur, je m'humilie devant toi, je revendique rien Seigneur. Je laisse tomber tous mes droits et mes prérogatives, Seigneur, je m'humilie devant toi, je suis brisé par la souffrance. Tu es mon seul espoir. Et même si tu voudrais passer, au moins, Seigneur, laisse tomber quelques miettes, Seigneur. Les petits chiens mangent les miettes de la table du maître. Seigneur, si je peux être parmi eux pour ramasser une miette, je suis même d'accord. C'est vrai que cette parole est aussi assez incroyable. Pourquoi Jésus dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens, mais elle va jusqu'à dire, Seigneur, moi aussi je suis à ta table. Moi aussi, toi Seigneur, tu es mon maître, comme le petit chien il a son maître. Moi, tu es mon maître, Seigneur. Et si je peux grappiller une petite miette, ça me suffira pour que ma fille soit délivrée. Seigneur, une miette suffit pour qu'il y ait de la délivrance dans ma maison. J'aimerais vous dire, écoutez bien, personne ce matin n'est comparé à un petit chien. Personne n'a besoin de se comparer et à recevoir juste les derniers restes, quelques miettes qui tombent de la table du Seigneur. J'aimerais vous dire, vous avez le droit de vous approcher de la table du Seigneur et de recevoir le pain de Dieu, le pain du Seigneur. Le pain du Seigneur est pour les enfants de Dieu. Le pain de Dieu est là ce matin pour que tu sois rassasié dans ton âme et que tu aies des forces encore pour avancer encore. Et ce qui tombe de la table du maître, ce sera comme le repas qu'Élie a reçu dans le désert, où Élie, découragé, était là et endormi, il ne voulait plus se réveiller. Il y a un ange qui le touche et tu dis, voilà du pain, mange, car le chemin est encore long. Il va manger ce pain et il va marcher 40 jours sans s'arrêter, tellement ce pain est puissant. Mes amis, le pain de Dieu va te donner de la force pour persévérer encore. Ne lâche pas, continue. L'enjeu est trop grand. L'enjeu est trop important. Elle reçoit donc cette énergie pour poursuivre. Cette énergie invisible, surnaturelle, rentre en elle. Elle n'abandonne pas, malgré le silence de Jésus, malgré le rejet des disciples, malgré la priorité pour Israël et malgré cette parole que les miettes sont pour les chiens de la table des maîtres, eh bien, elle va dire « Oui, Seigneur, oui, Seigneur. » Elle élargit par sa foi les limites du territoire. Les limites du territoire, c'est le territoire d'Israël, mais par sa foi, Jésus va élargir ses promesses. Ses promesses vont s'élargir jusque Tyr. Jésus n'était pas censé d'opérer là-bas, mais la foi a élargi le cœur. La foi a élargi le territoire. Mes amis, ce matin, vous pouvez élargir le territoire par votre foi et prendre encore dans d'autres terrains, d'autres territoires, des grandes victoires. Alléluia. Prenez des grandes victoires par votre foi. Élargissez encore le terrain de votre vie. Non, elle n'a pas accès aux promesses, elle n'a pas accès à l'alliance, elle n'a pas accès au temple, car elle est païenne, elle n'a pas accès à la gloire de Dieu qui est à Jérusalem, mais c'est la majesté divine qui s'est déplacée jusque vers elle. Alléluia ! La majesté divine se déplace ce matin. Elle n'est pas liée à un territoire, par votre foi. Vous recevez la gloire du Seigneur, vous recevez la portion de l'onction du Saint-Esprit, alors qu'elle aurait pu s'en aller 10 fois, c'est par la foi et la persévérance qu'elle va hériter des promesses. Reste accroché à la personne de Jésus. Et je termine ce message. Le silence de Dieu t'invite à poursuivre. Le silence de Dieu t'invite à poursuivre ta prière, à t'accrocher encore. Car viendra le jour de la délivrance soudaine. Je pense à ce pasteur que j'ai entendu lorsque j'étais encore au Danemark. Ce pasteur avait un ministère vraiment émergent d'une manière étonnante dans tout le pays. Mais un jour, il a été pris dans une attaque spirituelle épouvantable. Je ne sais pas les tenants et aboutissants de tout cela. Toujours est-il que ce pasteur est tombé dans une dépression. Il a dû être mis en clinique. Il est resté des mois et des mois dans cette clinique. Et bien sûr, sa famille priait. Bien sûr, son église priait. Bien sûr, tout un mouvement au Danemark priait pour lui. Et il racontera en disant, chaque matin, Alors que j'avais pris des médicaments pour dormir, je me réveillais très très tôt le matin. Et je sortais mes canons, mes fusils, je sortais mes défenses militaires pour combattre l'ennemi qui était partout tout autour de moi. Il était attaqué jour et nuit. Les médicaments faisaient que ça s'est calmé dans sa tête. Mais il était tout le temps en train de se battre contre cette puissance des ténèbres qui l'assaillait, qui l'encernait comme dans un étau. Et l'Église priait. Et il dira comme ceci. Un matin, je me suis réveillé et j'allais de nouveau, comme tous les matins, sortir mes canons, sortir mes fusils mitrailleurs, sortir mes grenades pour les lancer sur l'adversaire, pour le faire reculer de tous les fronts. Il essayait de m'attaquer et il n'y avait plus d'ennemis. Il n'y avait plus personne. Il était délivré comme cela, parce que le test, les épreuves ont été finalisées. Il y a eu un stop. Vous savez, les temps de l'épreuve, Dieu ne permettra pas que vous soyez prouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il donne le moyen pour nous en sortir, afin que nous puissions tenir le coup. Car Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dans Actes 12, nous lisons que Pierre était en prison et toute l'Église priait pour lui. Toute la journée, toute la nuit, il devait être exécuté. Tout à coup, il y a un ange qui arrive. Et il ouvre la porte de fer que personne ne pouvait ouvrir. Il dit, vas-y, passe. Passe, mon ami, rentre. Tout à coup, c'est terminé. Tout à coup, le combat est terminé. Écoutez encore cette... Mehdi Dibaj, c'est un pasteur iranien qui a été assassiné pour sa foi en 1994. Il dira ceci. « En vérité, vivre avec Dieu est glorieux, dira-t-il. » Plus la nuit est noire, plus l'aube est proche. Plus les nuages sont sombres, plus les pluies qui donnent la vie sont abondantes. Plus le chemin est étroit, plus le secours de Dieu est sans limite. Plus les difficultés sont grandes, plus Dieu nous prodigue son réconfort. Bien que les vagues de la mer soient de plus en plus hautes, rien ne pourra jamais troubler le calme des profondeurs. Bien que la tempête soit violente, elle ne peut déplacer des montagnes qui ne sont pas même ébranlées, car celui qui vit à l'ombre du Tout-Puissant ne sera jamais gêné par la chaleur. Femme, ta foi est grande. À cause de cette parole, qu'il te soit fait comme tu veux. À l'heure même, sa fille fut guérie. Hallelujah.